Je n'ai jamais pensé que j'avais le profil pour être actrice. Je ne sais rien faire d'autre que jouer, et pourtant, si je ne joue pas, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucune désinvolture ni once de condescendance dans mon propos. Je sais bien que l'absence de reconnaissance engendre des tragédies, tout comme le trop immédiat et gigantesque succès, et j'ai eu beaucoup de chance de me maintenir sur un chemin de crête, ne subissant ni l'ignorance, ni l'impérieuse gloire, n'étant jamais dépendante d'un seul cinéaste dont j'aurais été l'objet. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Bulle Ogier à l'occasion de la publication de son premier texte intitulé « J'ai oublié ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec les Pink Floyd, « Obscured by Clouds ». Une référence directe, Bulle, au premier film avec Barbet.
Voilà, en Nouvelle-Guinée, chez les Papous.
Alors ça, c'était une drôle d'aventure quand même.
Hein. Énorme, oui, énorme aventure.
Alors on va peut-être commencer l'aventure avec le jour où, dans un café, vous avez vu arriver Barbet Schroeder.
Oui, ce café, c'était la coupole où tout le monde, plus ou moins tout le monde de cette époque, ça devait être 69, par là, 1969, faut bien le dire, quand même, c'est le siècle dernier. J'étais assise avec Jean Eustache et Jean-Noël Pic, qui était un grand ami d'Eustache, puisqu'il a fait la Salle Histoire. Il est à l'origine de la Salle Histoire, le film de Jean Eustache, et avec Jean-Jacques Schoule. Et est arrivé Barbet Schroeder, et les trois garçons ont dit « Oh là là, voilà Schroeder, il va nous piquer toutes les filles. » Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Mais c'était pas fou.
Donc, il s'est assis parce que c'était ses amis aussi, ce groupe de trois. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Enfin, ça a été vite, hein.
Ça a été vite. On s'est
donc, c'était pas votre genre que ça aille vite.
Ça dépend.
Ça dépend, mais là, ça a été très vite. Là, hop, la rencontre, non, le coup de foudre.
Ça a été très vite parce que ça a été très long. Parce que c'est très long. Mais parfois, ça a été très vite. Oui. À cette époque, on n'était pas très soucieux de... on était assez libre.
Même très libre.
Oui, très libre.
Plus libre qu'aujourd'hui.
Sans doute, oui. Sans doute.
En tout cas, c'est ce qu'on ressent à la lecture de votre texte, c'est cette immense liberté, cette intensité du désir, ce désir qu'on peut toujours exaucer à tout instant, à tout moment, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa vie artistique, dans sa vie professionnelle. Vous veniez à peine de rencontrer Barbet Schroeder, avec qui vous vivez toujours aujourd'hui, et vous êtes parti, alors que vous le connaissiez vraiment à peine, et vous êtes parti en Nouvelle-Guinée avec lui.
Oui, tout d'abord, ça s'est passé ainsi. Il m'a raccompagnée chez moi. On a quitté ses trois amis, Eustache, Pic et Jean-Jacques Choule. Et il m'a raccompagnée chez moi. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je compte jusqu'à trois. Et si vous ne me répondez pas, je fais demi-tour. Et voilà. On a fait demi-tour et je me suis retrouvée dans un hôtel. Et je me suis réveillée le matin toute seule, complètement penaude d'avoir cédé à quelqu'un que, au fond, je ne connaissais pas. Un peu humiliée, je dirais. Barbet, avec galanterie, m'avait laissé un billet pour prendre un taxi pour rentrer chez moi. Et à partir de là, a commencé une histoire, mais ça. Je suis restée quand même un mois ou trois semaines sans voir Barbet. Et du tout. Je me suis dit, c'est une aventure d'une nuit. C'est pas très glorieux. Ça fait rien. J'en ai parlé à ma copine, et mon amie, à ma grande amie Bernadette Lafont, qui a dit ça n'a aucune importance, laisse tomber. Voilà. Et puis, trois semaines après, je ne sais plus si c'est trois semaines, vous savez, c'est loin quand même, Laure. Barbet m'a proposé de partir avec lui pour faire des repérages pour son film intitulé maintenant La Vallée, mais qui à l'époque s'appelait, enfin c'était prévu qu'il s'appelle L'Île. Donc nous sommes partis en Indonésie, parce que là il y a beaucoup d'îles qui sont totalement désertes, ignorées. Et c'était le sujet de son film, la recherche d'une tache blanche qui serait le paradis. C'était, disons, la fin du moment, des moments hippies. Mais ce film retraçait l'histoire d'un groupe de hippies avec le côté dionysiaque de Jean-Pierre Calfon, qui était le chef de ce groupe mystique. Et puis l'anglais qui représentait le côté apollinien, si je peux dire, de ce groupe.
En tout cas, ça a été une sacrée aventure. Oui, et vous étiez la jeune fille.
Et moi, j'étais la femme du consul de France qui partait en Nouvelle-Guinée pour ramasser des objets papous, des plumes d'oiseaux du paradis, des masques. Toutes sortes d'objets pour revendre à Paris dans une boutique, boulevard Haussmann ou ailleurs.
Et le tournage a été très dur. C'était un film à la croisée de l'anthropologie, de la recherche. C'était pas pour rire, hein. C'était pas du cinéma de plateau et de studio.
Non, c'était en effet un film qui était à la fois qui tenait de la fiction, mais aussi de l'ethnologie, comme vous dites, Laure, ou bien comme un reportage, même pas décidé, sur les tribus papous en haute montagne, qui n'étaient pas visitées par les occidentaux, par les Européens. sauf par les baptistes américains qui avaient implanté une mission avec un petit avion. Donc, ils commençaient à être couverts par des blouses, pas tous, hein, très peu, mais enfin, les femmes... oui, ça, c'était vraiment une aventure. Alors, le film n'a pas été exactement comme le souhaitait Barbet, parce qu'il manque des articulations qui n'ont pas pu se faire par toutes sortes d'accidents qui sont arrivés pendant ce tournage, y compris le vol des vêtements, y compris le feu des cases dans lesquelles il y avait le matériel, y compris... les échappées de Jean-Pierre Calfon, qui avait pris, je sais pas, un trip d'acide, on pouvait plus tourner pendant 8 jours. Enfin, y compris le fait qu'ils se sont baignés, pas moi, mais le groupe d'acteurs. On était 13 en tout, y compris les techniciens, et pas n'importe quel technicien, parce que c'était quand même Nestor Almendros à l'image, Machuel à son assistant, Jean-Pierre Rue au son, et puis l'assistant de Jean-Pierre Rue. C'était des grands techniciens français. Et puis il y avait un capitaine de bateau que Barbet avait trouvé en Australie, à Sydney, qui servait de directeur de production pour descendre les roches, pour pouvoir les amener au bateau, ou à l'avion plus exactement. Et puis un espèce de type comme il y en a dans tous ces pays qui ont atterri là parce qu'ils sont ils sont là quoi. C'est comme des colons mais pas vraiment. C'est plutôt des gens un peu marginaux, louches à la limite, qui servaient de cuisiniers et barbés. Et les acteurs, on était, il y avait la script qui servait d'actrice. À l'époque, elle c'était l'amie de Martial Reis, Monique Giraudy, Valérie Lagrange, son fils qui avait 7 ans, et Jean-Pierre Calfon, Michael Gotthard, l'acteur anglais, et moi-même. Et on était 13. Et c'est très peu. Et comme Barbet voulait que ce soit, enfin c'était un film sans dramaturgie vraiment, mais avec qui était contemplatif, il avait décidé de le faire en kinémascope et en son direct. Donc c'était encore plus compliqué parce que la caméra était énorme, elle était grande comme votre table là, qui était portée par sur un bâton par les papous. Vous voyez, et donc il y a plein je peux dire je peux pas vous raconter les aventures parce qu'il y en avait une tous les jours. La voiture était cassée, Nestor avait perdu Almendros, le chef opérateur avait perdu ses lentilles de contact. Enfin, il y avait tous les jours quelque chose qui faisait que c'était un tournage qui a duré 3 mois. Où il y a eu aussi des bagarres entre les tribus qui étaient vraiment très proches l'une de l'autre. Alors tout d'un coup, il y avait une volée de flèches qui se passait par-dessus notre tête, vous voyez, ou la Land Rover qu'on utilisait pour faire cette recherche de la tache blanche en Nouvelle-Guinée, qui serait le paradis, était complètement embourbée parce qu'il y avait des pluies aussi torrentielles. Alors on ne pouvait plus faire bouger cette voiture. D'ailleurs, il y a un plan dans le film là-dessus. Enfin, voilà. Je crois que s'il y avait eu, à l'époque, il n'y avait pas des... Comment ça s'appelle les... S'il y avait eu un making-of, il aurait été très, très riche.
Mais on a l'impression, Bulogier, en lisant ce texte merveilleux et plein de grâce, on expliquera pourquoi, que toute votre vie a été une aventure, mais que tout s'est fait par hasard. Est-ce que vous croyez au hasard ?
Oui, je crois au hasard. Je crois au destin. Et je crois au hasard, au destin. Et je ne sais plus. C'était les phrases du Pont du Nord que Jacques nous avait mis dans nos bouches aujourd'hui, c'est un hasard, c'est une rencontre. Demain, c'était un hasard, et après-demain, c'était le destin. Entre Pascal et moi, Pascal Augier et moi. Donc, je crois aussi au hasard, oui, bien sûr.
Le hasard nécessite l'abandon.
Je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que c'est... Et puis, il faut avoir la chance aussi. Ça compte.
Vous estimez avoir eu de la chance ?
Ah oui, moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance, évidemment.
Ben moi, je suis pas sûre après avoir lu votre livre, Bulle.
Ah bon ?
Ben, par exemple, vous expliquez dans une page qui est glaçante qu'un jour, comme de nombreuses jeunes femmes de l'époque, vous êtes tombée, entre guillemets, puisque c'est le terme, enceinte, et que vous vouliez avorter. Donc vous avez pris rendez-vous, je rappelle qu'à cette époque-là, l'avortement n'était pas légal. Vous avez pris rendez-vous avec un médecin qui a accepté de faire l'avortement, et qu'est-ce qui vous a fait, ce médecin ?
Écoutez, quand je me suis étendue sur la planche pour faire cet avortement, écoutez, il est passé à l'acte de viol, si on peut dire.
Mais c'est horrible.
Écoutez, j'étais tellement contente que cet avortement puisse avoir lieu d'une manière quand même assez clean par rapport à ce que j'avais entendu de mes amis, de mes camarades, même des femmes que je connaissais pas bien, avec des choses assez effrayantes, ou des voyages qu'il fallait faire en Angleterre, il fallait avoir de l'argent, ou il y avait les faiseuses d'anges qu'on appelait, avec les aiguilles à tricoter, je sais pas exactement ce que ça pouvait être, que là, si vous voulez, bon, ça faisait partie de cette histoire où je trouvais que j'avais de la chance d'avoir trouvé quand même un vrai médecin.
Qui vous avait violé.
Oui.
Et dans la page d'après, c'est comme si l'écriture faisait remonter la mémoire, vous dites que vous revient des images d'un autre viol que vous aviez complètement oublié, mais vous ne saviez plus l'identifier. Et c'est bouleversant de lire vos pages, Bulle Augier, parce que au moment où, depuis la naissance de la parole grâce à MeToo, on atteint ce qu'on appelle la zone grise. C'est comme si vous nous disiez, à nous toutes, mais aussi à nous tous, que voilà, ça faisait partie de la vie.
C'est difficile, j'ai déjà eu le courage de l'inscrire dans ce livre, et maintenant, j'avoue que j'ai pas tellement envie de m'étendre à la radio sur ce deuxième viol, si on peut dire. Voilà.
Ben, je voulais vous remercier de ce courage, en tout cas.
Oui.
En tant que lectrice.
Oui. Mais c'est grâce à MeToo que j'ai eu le courage de le mettre dans ce livre, et que j'ai trouvé que c'était important de le dire aussi. Parce que ça ne m'a pas non plus, étant donné que ça n'a rien à voir avec... c'était pas dans le cadre professionnel, c'était en quelque sorte pour me sauver de situations très difficiles. Donc, si vous voulez, au fond, c'est à moi-même que je m'en suis prise, plutôt que la personne qui a effectivement fait cet acte de viol. C'est à moi que je m'en suis prise, à moi-même.
De cette vérité vis-à-vis de vous-même, vous parlez en des termes extrêmement troublants et sincères, Bulle Augier, dans ce livre qui est une sorte de pérégrination à l'intérieur de votre vie, de vos aventures, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, psychiques, amoureuses. Et on sent toujours cette impression de flottement, comme si vous ne faisiez pas corps avec vous-même et comme si vous n'aviez rien décidé. Finalement, vous avez voulu être actrice ou pas ?
Je n'avais pas du tout cette idée au départ. Ça s'est passé par une suite de circonstances. Et puis, voilà, ça s'est fait. Vous savez, les jeunes filles, encore à cette époque surtout, elles savaient pas, et toujours maintenant, elles savent pas exactement ce qu'elles veulent faire. En tout cas, moi, j'avais été mariée, j'avais un enfant, j'avais divorcé un an et demi après. Et franchement, là, je voyais pas ce que je pouvais faire, sinon être journaliste, reporter, pour essayer de trouver, de rencontrer des gens qui étaient loin de ce que j'avais connu jusqu'à cet âge-là, de 19 ans, 18 ans. Et puis, quand j'ai commencé à être un peu actrice avec Marco, il a semblé que j'étais faite pour ça, que j'y allais, quoi, que je m'amusais, que je donnais quelque chose qui était un peu différent de ce qu'on pouvait... je crois, je peux parler de moi maintenant à mon âge. j'ai pas de... Voilà, c'est tout. Non, j'avais pas du tout décidé parce que je n'étais pas élevée dans le cadre du cinéma ou du théâtre. J'étais élevée par ma mère dans le cadre de la musique plutôt, et par mon grand-père qui avait son orgue rue de Bourgogne, et par ma mère qui avait son piano, et j'allais tous les dimanches au concert à Pleyel, concert Colonne, et puis le matin à Saint-Sulpice, écouter Marcel Dupré, qui était un ami de ma mère. Donc c'était plutôt de... J'imaginais quand j'avais 12 ans que je serais une très grande pianiste avec une belle robe, salle Pleyel, voilà. C'était mon rêve impossible, puisque j'étais pas au fond, j'ai fait du piano comme toutes les petites filles, et puis après non.
Mais vous êtes devenue une grande actrice.
Ah ben, ça, c'est vous qui le dites.
Ben, comment une jeune fille d'éducation bourgeoise, élevée dans un milieu assez strict, devient l'icône des années 60, 70, 80, encore aujourd'hui? Vous êtes devenue la représentante de la liberté, pour nous, oui. Les femmes, et les filles aussi.
Ah, tant mieux, je suis ravie d'entendre ça.
Comment est-ce que ça s'est fait aussi à votre insu, cette espèce... Vous disiez tout à l'heure que vous étiez faite pour ça, être actrice, et que vous vous amusiez. D'ailleurs, certains vous l'ont reproché en disant « Bulle, elle s'amuse toujours ». Ben, effectivement, vous amusiez moins quand vous étiez petite que quand vous avez joué devant la caméra.
Oui, mais aussi parce que j'ai connu ce que c'était qu'un groupe. Et c'était très fort... les années Marco, elles ont quand même duré 6 ans, de 1961 à 1967. On était un groupe comme familial, mais le soir, on faisait des improvisations et avec des psychosociologues, avec Guattari, avec des gens assez très passionnants, quoi. Et c'est grâce à Marco que j'ai connu ce que c'était que la littérature, les surréalistes, la contre-culture, etc. Puis on était, je crois, assez en avance par rapport... puisque c'était quand même 63, 64, bien avant 68. C'est des moments merveilleux dont je me souviens.
Et est-ce que vous avez l'impression que tout ce que vous avez appris au cours de ces collectifs, qui étaient effectivement extrêmement importants et aujourd'hui encore trop méconnus, quoique la Cinémathèque française rend hommage à toute cette mouvance-là du cinéma indépendant, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez appris vous a nourri pour votre pratique d'actrice? Ou pas du tout?
Ah ben oui, bien sûr. Non, parce que c'était pas n'importe quoi quand même. On travaillait beaucoup. On travaillait aussi d'une manière classique, l'articulation, enfin tout ce qu'on apprend dans un cours, des textes, des poèmes, des textes classiques, la danse tous les jours. Vous voyez,
il y avait aussi... Non, mais là, je parle de la composition d'un personnage à l'intérieur de votre cinématographie, Bulle Ogier. Par exemple, Prenons la salamandre qui est restée. D'ailleurs, je vois qu'elle est sur la table, le DVD est sur la table.
Oui, parce que je l'ai reçu récemment.
Ah, vous venez de le recevoir, oui. Il y a un nouveau DVD. Ah, mais c'est une super nouvelle. Mais dans ce film qui est resté...
Oui, parce qu'il a été remasterisé, c'est pour ça.
Alors ce film, il est resté dans nos mémoires de manière extrêmement vive et il continue sa vie. Mais souvent dans vos interprétations, et plus particulièrement dans La Salamandre, on a l'impression que vous improvisez. C'est vrai ou pas ?
Non, pas du tout. Quoique, il y a des petites choses évidemment qu'on amène, mais c'est tous les acteurs, je pense. L'idée d'improviser, qui était déjà très frappante dans L'amour fou que j'ai revu avant-hier à la Cinémathèque de Jacques Rivette.
Vous pouvez nous expliquer quel était le dispositif du film de Jacques Rivette et comment il avait décidé de faire ce film et pourquoi, et la durée du film ?
Ah, la durée du film, je ne crois pas que ce soit le premier film qu'il ait fait.
Non, non, mais il est très long.
Oui, il est très long.
C'est 4 heures fleuve et quart, immense. Oui.
Ben, il nous avait vus avec Jean-Pierre dans 2 pièces de Marco et il a décidé qu'on pouvait former un couple. Et je pense que le fait d'avoir travaillé ensemble, Jean-Pierre et moi, ça nous a donné une grande liberté pour d'improviser ou de jouer ce que Jacques... Parce qu'il y avait quand même un canevas, il y avait quand même... Je sais pas, Jean-Pierre dit qu'il y avait 7 pages, Véronique Rivette qui a les archives dit qu'il y en avait 30. Alors, vous voyez, c'est un peu, c'est dans le flou, tout ça. Mais c'est vrai que Jacques a laissé la façon plus traditionnelle, comme dans La Religieuse, de tourner pour faire ce premier film avec une autre... Ça a été le début d'une façon de tourner pour lui qui a suivi après sur plusieurs films, sur presque tous ses films, sauf ne touchez pas à la hache.
Et donc, il vous demandait d'improviser. Il n'y avait pas véritablement de scénario.
Ben, on avait un scénario, bien sûr, fait par Jacques et son ex-amie Marie-Lou Parolini, qui tenait les photos des cahiers du cinéma, qui étaient jaunes à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il nous a donné... On avait un plan, chaque jour, de scène à jouer. Et... Là-dessus, on improvisait les scènes. Il n'y avait pas de dialogue écrit par Jacques ou Marie-Lou.
Comment avez-vous...
Mais les scènes étaient décidées par Jacques. Absolument. Donc le film, c'est quand même Jacques et au montage aussi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Bulogier. Libère Tango, Astor Piazzolla. Vous y teniez, hein ?
Absolument. J'adore cette musique. Et en plus, c'est la musique du Pont du Nord, de Jacques Rivette, avec Pascal, et Pierre Clémenti, et Jean-François Stévenin.
1, 2, 3. Comment vous appelez-vous ?
Marie.
Marie, c'est ça, oui. Il fallait que ce soit Marie.
Pourquoi ?
Il le fallait. Ne cherchez pas à comprendre.
Non, je cherche pas. Et toi, c'est quoi ?
Je m'appelle...
Baptiste. Baptiste ? Baptiste, c'est pas ton vrai nom.
C'est mon nom. Je n'en ai pas d'autre. Vous êtes la première personne sur qui je tombe. La ville est immense. Les rues, les gens, vous avez besoin de moi.
Je n'ai plus besoin que d'une seule personne. Et ce n'est pas toi ?
Oh là là, c'est moi ? Bien plus que vous ne pouvez le croire.
Pourquoi ?
Une fois. 2 fois ? 3 fois. Une fois, bien, c'est un accident. Et puis encore, 2 fois. C'est le hasard. Mais 3, c'est le destin.
Mais le destin, ça n'existe pas.
Quand vous dites cela, c'est encore le destin.
Ah. Et si je ne l'avais pas dit ?
Pareil, le destin.
Ton destin, Baptiste, c'est des racontars. Tout n'est pas écrit dans un livre.
Je sais bien qu'on n'a pas toujours le choix. Mais si tu es perdue comme une feuille au vent, tiens, tu me tiens mon sac? C'est pas parce que tu le décides que tout va changer. Moi, je suis pas folle. Je crois plus au miracle. C'est pas parce que tu veux changer que ça va se passer. Mais je veux croire quand même qu'on n'est pas pris au piège. Et moi, j'ai décidé de me battre. Et maintenant, plus qu'hier, et plus que demain, et plus qu'avant-hier, et que tout le temps, je me suis dit, Marie,
ouais.
Aide-toi. Le ciel t'aidera.
Si je le veux, Marie.
Comment et dans quelles circonstances avez-vous décidé, je ne sais pas si vous l'avez décidé ou ça, si ça s'est offert à vous, Bulogier, de faire du théâtre? Comment ça a commencé le théâtre pour vous?
Ah mais ça a commencé avec Marco à l'American Center, qui est devenu maintenant Cartier,
la Fondation Cartier.
Et à l'époque, c'était assez... C'était très enrichissant d'être là parce qu'il y avait beaucoup de peintres, sculpteurs, musiciens de chez Boulez, sculpteurs comme Tinguely, comme il y avait des peintres comme Armand, y avait beaucoup de gens et on a commencé nos pièces là, écrites par Marco pour nous, chacun d'entre nous. Pierre Clémenti, Calfon, Michel Moretti, beaucoup de gens, ils se servaient de nous pour écrire. C'est très très écrit ces pièces, hein. C'est pas du tout notre langue, un langage courant. C'est un langage écrit. J'ai commencé là, et puis après ça, j'ai fait du cinéma. Après je suis revenue au théâtre avec Jean-Louis Trintignant pour Hamlet. Ensuite j'ai refait du cinéma, et ensuite je suis revenue avec... Je voulais plus faire de films pendant un certain moment parce que j'en avais fait beaucoup. Je me disais que je me serais répétée, que moi-même, j'en avais assez de voir ma propre gueule, si je peux dire. Et je pensais que... Et à ce moment-là, est arrivé Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud et Marguerite Duras.
Ça fait pas mal comme trio.
Oui. Et là, j'étais à San Francisco et Barbet était en train de faire son film sur Coco, le gorille qui parle. Et j'étais ravie d'avoir ce projet qui est arrivé jusque-là. C'était loin quand même. Et donc, je passais au théâtre et j'ai continué quand même plus sur le théâtre qu'avant, plus qu'avant.
Je vous avais dit qu'il fallait voir. Que vers midi, le silence qui se fait sur Athènes est tel, avec la chaleur qui grandit, la ville se vide à l'heure de la sieste, tout ferme comme la nuit, qu'il fallait assister à la montée du silence. Je me souviens, je vous ai dit, peu à peu, on se demande ce qui arrive, cette disparition du son avec la montée du soleil. C'est là que cette peur arrive, pas celle de la nuit, comme une peur de la nuit dans la clarté. Le silence de la nuit en plein soleil. Le soleil au zénith et le silence de la nuit. Le soleil au centre du ciel et le silence de la nuit. Quand les autres sont arrivés vers 2 heures de l'après-midi, on est redescendu ensemble vers la ville, Athènes. Et puis plus rien n'est arrivé. Rien. Rien d'autre que toujours, partout, ce manque d'aimer.
Au musée civique d'Athènes, le lendemain après-midi.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Voyez comme on est. Et puis je vous ai parlé de l'autre histoire. L'histoire des autres gens.
Alors, avec Marguerite Duras, ça a été l'amour fou. Avec Madeleine Renaud, ça a été l'admiration et l'amour fou aussi. Et vous dites, dans ce livre qui sort, J'ai oublié, Bulloger, vous dites que, hélas, un jour, Marguerite s'est fâchée avec vous.
Oui, mais ça lui arrivait de se fâcher. Elle se fâchait, elle s'est fâchée pour une raison qui n'était pas valable du tout. Et malheureusement, je n'ai pas pu m'expliquer avec elle parce qu'après, elle est tombée malade, donc on ne pouvait plus la voir. Et c'était très douloureux de savoir que je n'aurais pas revu Marguerite depuis cette fâcherie qu'elle a eue contre moi.
Et pourtant, sur votre table, dans votre appartement, y a un livre de Marguerite.
Oui, il y en a beaucoup. Si vous faites un tour, il y en a beaucoup, y compris votre livre, chère Laure.
Et je vois sur le mur en face de moi un tableau d'une petite fille. Est-ce que c'est vous ?
Oui, c'est moi.
Vous n'avez pas beaucoup changé, hein ?
Ah, vous trouvez ?
Le même regard.
Et là, ça, ma maman.
Ah ben alors, j'allais dire votre fille, Pascal. Votre fille ressemble à votre mère.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, sur ce tableau, oui. C'est stupéfiant.
Oui, elle se ressemblait. Elle se ressemblait. Elle s'aimait beaucoup et elle se ressemblait.
Ben, votre fille a beaucoup vécu avec votre mère. C'est ce que vous dites dans le livre.
Oui, c'est vrai. On était trois, les trois Augiers.
Mais dans ce livre, vous dites aussi que les 2 dernières années de la vie de Pascal, vous sentiez qu'elle s'éloignait de vous, qu'elle faisait tellement de choses, elle était tellement géniale et tellement inventive, elle était peut-être trop speed, quoi. C'est ce que vous dites.
Écoutez, oui, elle était très, très occupée, mais après tout, une jeune fille de 25 ans, une jeune femme de 25 ans, elle a sa propre vie. Vous voyez, je pense.
Comme vous, vous avez eu la vôtre et quand vous avez...
Mais moi, j'habitais quand même chez ma mère jusqu'à la... Je suis retournée chez ma mère après mon divorce jusqu'à l'âge de 30 ans.
Bah, dis donc. Et elle vous a rien dit quand vous avez quitté votre premier mari et que vous êtes revenue chez elle ?
Non, non, parce qu'elle comprenait que c'était une histoire qui ne fonctionnait pas. Et voilà. Mais vous savez... Bon, ce livre, c'est pas, je le prends pas tellement au sérieux non plus.
Bah, vous vous prenez pas au sérieux. Remarquez, c'est formidable de pas se prendre au sérieux.
Je ne sais pas, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça.
Bah, moi, je l'ai lu avec sérieux et avec énormément de bonheur, parce que je pense que c'est un livre qui va toucher énormément de personnes. Parce que vous vous prenez pas au sérieux.
Bon.
Donc la modestie, c'est quand même quelque chose qui se perd.
Je ne sais pas si c'est de la modestie.
Bah, en tout cas, c'est l'absence d'ego, E-G-O.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, là.
Ah bon ?
Non.
Pourquoi ?
Ben, parce que je pense que j'ai... En fait, l'absence d'ego, oui, mais je pense que je vise assez haut les choses. J'ai une volonté d'être assez... de vouloir des choses de haute qualité ou des relations de haute qualité ou voilà.
Sinon, bah les deux choses peuvent
aller
ensemble.
Sinon, je reste chez moi.
Oui. Oui. Bah, la dernière fois qu'on vous a vu sur un plateau de théâtre, votre exigence, votre rigueur, votre travail de compréhension du texte, mais aussi la manière dont vous interprétiez et incarniez le personnage de la mère de Christine Angot, dans cette pièce de théâtre, prouver à quel point l'exigence restait votre ligne de crête.
Oui, je le revendique. C'est vrai, je le revendique. Ça a été comme ça dès le départ, au fond. Parce qu'on avait, avec Marco, qui était une espèce de maître... qui nous a appris beaucoup de choses, à moi et aux autres acteurs tels que Pietro Clementi ou Calfon, parce qu'on était, très ignorants finalement, on n'avait pas fait d'études, moi je me suis mariée trop tôt, Pierre, sa maman était concierge, Jean-Pierre, je sais pas d'où il est. Vous voyez, on était des gens un peu, pas du tout lettrés. Et Marco nous a appris tout ça. Et donc, là aussi, une certaine façon de voir les choses, aussi politiquement. Et puis, c'était tous les mouvements qui se sont mis en place, les rencontres. Et après, ça a été les femmes, Antoinette Fouque, la librairie des femmes. Vous voyez ?
Je n'ai plus tellement envie de passer sur un écran maintenant. C'est derrière moi. Je n'ai pas une tête qui m'intéresse quand je la vois. Je la déteste. Elle me donne envie de fuir. Je date d'une époque où l'on était assez dilettante sur son image. Les gens avec lesquels j'ai travaillé comprenaient très bien qu'on ne soit pas à cheval sur un mauvais profil. On était tout juste content de faire au mieux ce qu'on avait à faire. Être au service du metteur en scène et non de soi-même était la seule ambition. Ça, c'est vous qui avez écrit ça, c'est dans le dernier tiers de votre livre. Et je crois que ça reste votre manière d'être et de travailler aujourd'hui.
Oui, je pense. Tout ce que vous avez dit, c'est ce que je pense.
Ben oui, puisque c'est vous qui le dites et qui l'avez écrit.
Oui,
mais
oui.
Ça nous touche, nous, public, quand on découvre votre texte et votre manière d'être. Et le futur, alors, et l'avenir, vous le voyez comment, Bulle ?
Je le vois en... Le futur, ça ne peut être que du bonus, parce que quand même, j'ai un certain âge. Et donc, je pense à demain, après-demain, mais pas beaucoup plus loin. Ou peut-être la semaine prochaine, mais pas beaucoup plus loin.
Mais pourquoi ça ?
C'est comme ça, c'est ma façon d'être.
Chaque semaine, l'une après l'autre.
Chaque jour, l'un après l'autre. Oui. Parce que je ne suis pas employée quelque part, donc il faut que la journée d'après, ben, qui sait où je serai, qui sait qu'est-ce qui va se passer, peut-être il y aura un très beau projet, j'aurai envie de faire, mais peut-être j'aurai plus du tout envie de faire quoi que ce soit. C'est possible aussi.
Devenir contemplative.
Oui, enfin, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses. Que vous avez, si vous avez lu le livre, vous avez compris que j'ai beaucoup de choses à ranger et à mettre en place.
Oui, parce que vous dites que vous avez des caves qui sont pas bien rangées. Vous dites que vous avez des greniers pas bien rangés. Oui. Qu'il y a beaucoup de choses à classer, à ranger, à mettre en ordre. Mais je suis pas sûre que vous vouliez tellement mettre ça en ordre.
Mais il faut. Voilà. Et
pourquoi il faut?
Je sais pas. C'est comme ça. C'est une chose que j'ai dans la tête. Il faut parce que je peux pas disparaître et laisser tout en plan comme ça.
Mais pourquoi vous parlez de disparaître?
Ben, on disparaît tous.
Oui. Enfin, vous avez le temps d'y penser.
Oui, si vous voulez. On y pense. Enfin, étant donné que pratiquement tous mes amis ont disparu, et ça je le dis dans le livre, c'est une chose auquel je pense.
La mort?
À laquelle je pense, oui. Oui. Enfin, la fin de quelque chose.
On a l'impression que vous êtes une survivante en même temps.
Mais quand on a des enfants, il y a une suite, si vous voulez. Là, voilà. Une survivante? Oh, oui, oui, si vous voulez. Une survivante à quoi? À la maladie?
À la maladie, ou au chagrin extrême, à la souffrance la plus terrible? Vous avez survécu à tout cela?
Oui, oui. Sait-on jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Mais tout ça n'est pas très sérieux.
Il y a une chose sérieuse, peut-être, quand on referme votre livre. D'abord, on est bouleversé, mais il y a une chose sérieuse, c'est l'amour. Parce que la fin de votre livre se clôt par une déclaration d'amour. Est-ce que vous m'autorisez à la lire, ou est-ce que vous pourriez lire le dernier paragraphe?
Non, je préfère que vous le lisiez.
Ah bah devant vous, c'est difficile, mais je vais le lire.
Oui, parce que moi, je pourrais pas le lire.
Parce que vous seriez trop émue.
Non, parce que je serais un peu embarrassée, gênée.
Alors voici le dernier paragraphe. Il s'agit de Barbet, Schroeder, par lequel on a commencé en parlant de votre film La Vallée avec lui. Vous dites, je vous cite... Depuis qu'on vit ensemble, il y a eu une multitude de chemins de traverse, mais on ne s'est jamais séparés. Avec qui j'aime être, regarder des films, point d'interrogation. Avec qui je suis d'accord sur tout, point d'interrogation. Avec qui j'ai souvent choisi l'aventure plutôt qu'un tournage en France, point d'interrogation. Barbet, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de souffrance, mais il n'y a pas eu d'incertitude. J'ai toujours su qu'il est l'homme de ma vie et que je suis la femme de sa vie. Point final. Il l'a lu?
Oui. Oui, je crois qu'il l'a lu. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Merci infiniment.
Non, mais c'est très émouvant. Vous voyez, j'aurais pas pu le lire. Moi. Vous l'avez très bien lu.
Ben, en tout cas, merci infiniment pour ce livre qui porte un titre qui est très emblématique de l'écriture que vous avez adoptée, puisque j'ai oublié. Vous faites mine de tout oublier, mais en fait, vous avez tout dans la mémoire. Et j'ajoute que c'est avec la collaboration d'Anne Diadkin et que ça vient de sortir aux éditions du Seuil.
Merci, Laure. Mais en fait, c'est parti du fait que j'ai oublié des pans entiers de ma vie. C'est pour ça que j'ai accepté cette proposition de faire ce livre. Parce que j'ai vraiment oublié des choses mais énormes, mais je le dis, vous en avez parlé, des choses qui surgissent d'un seul coup à partir du mot j'ai oublié. Je n'aurais pas fait ce livre si j'avais pas envie de me rappeler des choses que je ne sais pas. Il y a 3 mois là que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y a des gens qui me disent, mais tu te souviens ça? Je me souvenais pas. Donc je me suis dit, peut-être ça va m'aider à me rappeler. Mais à quoi ça sert au fond si on y pense, de se rappeler des choses du passé? N'est-ce pas? Après avoir fait ce livre, je me suis dit à quoi ça sert. Mais en même temps, c'est une gymnastique parce que si vous voulez, au théâtre, on apprend comme des machines, voyez. Alors on se rappelle au bout d'un moment, puis après on est sur scène et puis on se rappelle. Mais des moments de vie, j'ai complètement oublié parfois. Je me souviens, avant que ma mère décède, elle m'avait rappelé que j'étais allée au Mont-Saint-Michel avec mon frère, avec sa voiture décapotable, et que j'étais enceinte. Je ne me souviens pas du tout. C'est parce qu'un jour, je lui ai dit, écoute, il y a une chose que j'aimerais bien faire, c'est voir le Mont-Saint-Michel. Elle m'a dit, mais on y était ensemble. Vous voyez, alors, à partir de j'ai oublié, des choses sont revenues à la surface. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
Ben, merci pour ce cadeau.
Merci, Laure.
Et c'est avec Je sais pas danser de Pomme que nous nous quittons ce soir, non sans avoir remercié Nicolas Mathias qui était à la technique, Lilian Allôme qui a réalisé cette émission, Élodie Royer, Adrien Azéli, Louise Douillet qui l'ont préparé, ainsi que Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous comme chaque soir avec Mishka Assayas pour son Very Very Good Trip.